Bonsoir. La ville de Kinshasa a été paralysée samedi 19 octobre après des fortes pluies qui ont inondé les principales artères de la capitale. Les Kinois ont été contraints de rester chez eux, les rues étant impraticables pour les taxis, taxibus et motos. Les caniveaux bouchés ont aggravé la situation, empêchant le drainage des eaux des pluies qui ont envahi certaines habitations. Les écoles, marchés, boutiques, pharmacies et autres commerces sont restés fermés à cause des inondations et ont touché plusieurs quartiers de la capitale. Plusieurs dégâts ont été enregistrés. C'est notamment dans la commune de Kalamu, sur la route Lingessa, où l'eau des rivières avait quitté, l'eau des rivières Kalamu bien sûr, avait quitté son lit et inondé les maisons des riverains. Comment prévenir ce genre de situation? Quelle est la politique menée au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa pour réduire les dégâts des pluies? Nous en parlons ce soir avec nos invités qui sont déjà dans ce studio. Augustin Taguisabo, chef de division du Centre météorologique national et responsable de la prévision du temps à la Metelsat. Augustin Taguisabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Aussi avec nous dans ce débat, Joël Kiana Basila. Il est urbaniste de formation et président national de la Corporation des urbanistes congolais et enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Il est membre d'Expo Béton. Joël Kiana, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Lui, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. C'est Israël Moutala, directeur des cabinets du gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci parce que vous êtes déjà très très nombreux à nous envoyer vos points de vue. C'est le cas de Gabriel Ekwalanga depuis Bukavu, Sud Kivu. Les inondations sont devenues une réalité sur toute l'étendue du territoire national, pas seulement à Kinshasa, mais cette situation est vécue dans presque toutes les villes de notre pays. Pour prévenir ce genre de drames, nous devons à chaque fois, surtout pendant la période de la saison sèche, évacuer tous les déchets et ordures se trouvant dans les caniveaux afin de permettre qu'il n'y ait pas des inondations lors de la saison des pluies. Interdire aussi les constructions anarchiques et veiller également à l'assainissement de nos villes. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit, dans le sommaire, plusieurs dégâts ont été enregistrés par la population kinoise après la pluie qui s'est abattue samedi matin dans la capitale congolaise. Dans la commune de Kalamu, par exemple, sur la route Elengessa, l'eau de la rivière Kalamu avait quitté son lit et inondé les maisons des riverains et plusieurs biens ont été perdus. Les habitants de ce coin lancent un cri d'alarme et demandent l'écurage des rivières et des caniveaux afin que pareille situation ne se reproduise. Reportage de John Chibouaboua et Plamedi Biavanga.
Samedi dernier, la ville de Kinshasa s'était réveillée sous de fortes inondations, causant en leur passage la perte des biens, comme expliquent ses habitants de la commune de Kalamu.
C'était un scandale, l'eau avait inondé les maisons des gens, endommagé des biens et il n'y a pas moyen de passer ou de vendre depuis la nuit de samedi jusqu'aujourd'hui, rien de bon.
Il y a eu une grande inondation et les immondices ont rempli le pont.
Ces femmes plaident pour l'écurage de la rivière Kalamu au niveau du pont Nguza entre les communes d'Ingiringiri et Makala.
Le projet de la construction de ce pont n'est pas prêt. Qu'on vienne curer la rivière Kalamu, qu'on enlève toute cette saleté qui empêche l'eau de bien passer.
Qu'on trouve une solution pour le pont Nguza. Nous ne pouvons pas vivre dans ces conditions.
Notons que les inondations de cette pluie ont causé la mort d'un enfant de 2 ans dans la commune de Makala.
Merci John Chibobo et Plamedi Biavanga. Nous disons bonsoir à Israël Moutala qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Je l'ai annoncé, c'est le directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Bonsoir.
Bonsoir Kiz.
Alors Augustin Taguisabo, le temps pour Israël de souffler un peu. On va commencer par vous. Je rappelle que vous êtes chef de division du centre météorologique national et responsable de la prévision du temps, la Metelsat. On va aller droit au but. On a vécu plusieurs fois ce genre de situation. Comment les prévenir? Cette question revient chaque fois qu'il y a des inondations à Kinshasa.
Merci beaucoup. La Metelsat prévient toujours de tels événements. Il a, au début de la saison de pluie, il s'était prévu que la situation va commencer le 22 mars, le 22 septembre, le début de la saison de pluie ici à Kinshasa. Nous avons prévu et nous avons averti qu'il y aura des pluies excédentaires au niveau de la saison qui commence. Nous avons lancé les alertes pour dire qu'il faut se prendre à charge, il faut prendre des dispositions. Nous sommes allés même plus loin, même à entrer dans certains domaines pour prévenir les temps. Nous sommes en train de suivre, et la Metelsat suit l'évolution des prêts, parce qu'il y a le front intertropical qui fait les mouvements vers le nord et vers le sud. Et pendant la saison de pluie, ce front descend vers le sud. Et quand il commence à descendre, il nous amène beaucoup de précipitations, dont nous appelons la pluie, et au niveau du sud. Nous prévenons cela en regardant aussi les zones équatoriales. Nous regardons aussi les paramètres météorologiques et comment ça varie dans l'atmosphère. Et avec tout ça, nous faisons la prévision saisonnière. Et cette prévision saisonnière, nous le faisons pour 3 mois, pour prévenir déjà au gouvernement et au public que voilà la situation qui aura lieu pendant les 3 mois à venir. Mais la population,
aucune disposition
n'a été prise et nous ne pouvons rien faire parce que quand la pluie arrive, il a une intensité que nous ne contrôlons pas. Et quand maintenant il y a l'eau d'écoulement, nous ne pouvons pas aussi contrôler cette eau d'écoulement-là. Et la méthode se limite à prévenir les temps qu'il va faire et il faut prendre des dispositions. Nous les prévenons.
Lesquelles, par exemple, monsieur Augustin Taguisabo?
Par exemple, nous disons qu'il y aura des orages accompagnés de pluies sur la ville de Kinshasa pendant, par exemple, demain. Ou bien dans 3 jours ou dans un mois, il y aura des manifestations pluvio-orageuses. À ce moment-là, le gouvernement doit prendre des dispositions et l'hôtel de ville, de son côté aussi, doit prendre des dispositions pour avertir les gens qui sont au bord des rivières, au bord des canalisations, de pouvoir prendre leurs dispositions. Il y a la protection civile qui doit...
C'est-à-dire quitter ces endroits?
Oui, quitter ces endroits-là et aller quelque part en attendant que l'événement passe. Mais il y a les gens qui font sourd oreille. Ils ne veulent pas écouter le bulletin météo qui est diffusé régulièrement dans les chaînes de télévision et même dans les chaînes YouTube. Et la prévision passe, mais les gens ne font pas attention. Et il y a ceux-là qui doutent, qui disent non, la météo est en train de mentir. La météo ne ment pas. Ce que nous faisons, c'est une science exacte. C'est une science qui n'est pas une science à tâtonnant, mais c'est une science où il y a des génies, il y a des personnes qui réfléchissent et des personnes qui font des calculs mathématiques et physiques pour arriver à prévenir du temps. Donc ce n'est pas un hasard.
Et la Metelsat a annoncé encore beaucoup de pluie pour cette semaine.
Oui, en regardant la prévision saisonnière, la Metelsat a prévu au mois d'octobre, novembre et décembre. C'est une période de 3 mois. Cette période, il y aura encore des pluies. Pas seulement à Kinshasa, mais dans d'autres villes aussi du pays, quoi. Telles que nous avons ici, il y a Mongala, il y a Otuele, Bazuele, Ituri, et il y a aussi Sud Kivu, Nord Kivu, il y a Tanganyika, qui aura des pluies excédentaires. Et pendant cette période de 3 mois jusqu'au mois de décembre, nous devons prendre des dispositions utiles pour qu'il n'y ait pas de dégâts humains et matériels. Et chacun dans son côté, comme nous avons certains partenaires qui sont avec nous, les gens de l'OVD, les gens de l'hôtel de ville, le ministère de l'Intérieur, chacun dans son côté, il doit prendre ses dispositions pour sauver les vies et humains.
Israël Moutala, directeur du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, la Metelsat a alerté sur les pluies hein, ou les inondations qui sont arrivées d'ailleurs dans la ville de Kinshasa. Aucune disposition n'a été prise. Pourquoi?
Je ne dirais pas qu'aucune disposition n'a été prise. La ville a entamé il y a déjà quelques mois un projet de curage de la ville sur deux points dits de points chauds. Ces curages se sont faits notamment autour du stade Tata Raphaël où il y a eu des travaux de curage qui ont été entrepris. Mais une fois que vous curez un tronçon d'une rivière, quand il pleut, tous les déchets qui sont en amont descendent dans l'aval et les gens disent ou peuvent penser que les travaux de curage n'ont pas été faits. Ça veut dire que, par exemple, vous
ne prenez... Ne faudrait-il pas commencer par ce qui est en amont?
Non, mais
pour éviter justement que non, cela ne puisse descendre.
Mais voilà la problématique, c'est laquelle? Kinshasa, c'est à peu près... Kinshasa, c'est à peu près... c'est à peu près 11 rivières qu'on appelle des émissaires. C'est à peu près 11 rivières. Et ces rivières-là, la plus longue à 12 kilomètres. Et des parts en part de ces rivières-là, les gens ont construit. Donc il y a cette urbanisation anarchique. Les gens ont construit sur des zones inondables. Ça veut dire que même quand vous voulez curer, les engins n'arrivent même pas à accéder à certains endroits. Cas par exemple du côté de Dilandos. Parce que les gens ont construit. Toutes ces années, ils ont construit au bord des rivières. La loi dit quoi? Que on ne peut pas construire sur les berges de rivière. Il faut au moins une distance de 20 mètres à partir de la plus grande crue. C'est-à-dire, quand il y a une rivière, un émissaire, pour qu'il y ait une bâtisse, il faut avoir les statistiques sur les crues et vous vous référez à la plus grande crue. Et de là, vous observez 20 mètres. Les gens n'ont pas observé ça. L'État...
Il faut les faire partir de là.
Ah, mais justement, c'est beau, c'est bien, c'est très beau de dire qu'il faut les faire partir de là. Mais vous logez à peu près 200 000 familles. Vous les logez où? C'est-à-dire, vous cassez les maisons des gens. J'ai dit qu'il y a 11 rivières à Kinshasa. Vous cassez des parts en part. Vous les logez où? Donc, c'est une question qu'il faut examiner de manière holistique. Ça veut dire aujourd'hui, les inondations sont non seulement la résultante du changement climatique, mais aussi de ce qu'on appelle une urbanisation chaotique. Alors, qu'est-ce que cette urbanisation chaotique a donné comme mauvais résultat? Vous avez le réseau d'assainissement de la ville qui est complètement dépassé. Ça veut dire que même là où il y a le réseau de la ville existe un peu, il y a un petit réseau, notamment à la Gombe, les réseaux doivent être redimensionnés. Donc, par moment, vous avez ce réseau d'assainissement qui est non seulement sous-dimensionné par rapport à la croissance démographique, par rapport au développement de la ville, vous avez des nouveaux quartiers qui n'ont pas de système d'évacuation d'eau. Donc, il faut avoir des réseaux sur chaque avenue, dans chaque quartier, dans chaque circonscription, et puis vous faites un réseau urbain. Donc ça s'interconnecte et vous amenez l'eau vers l'exutoire, vers le fleuve. Je vais vous dire aussi que les émissaires, il y a 11 émissaires, qui sont des affluents qui se jettent dans le fleuve. Le fleuve, il y a certains exutoires qui sont bouchés parce qu'on n'a pas dragué le fleuve, ça fait 40 ans. Parce que par moment, il faut aussi curer le fleuve pour que les émissaires se jettent aisément dans le fleuve. Mais là aussi, il y a un reflux parce que il y a des bouchons au bout des exutoires. Donc c'est une question holistique. Et donc les gens non seulement ont construit autour des berges, mais les gens jettent leurs déchets solides et liquides dans les rivières.
Parce qu'il n'y a pas de poubelles publiques.
Mais justement, alors c'est ce que je dis. Il n'y a pas de poubelles publiques. Pourquoi il n'y a pas de poubelles publiques? C'est ce que je dis encore une fois. Urbanisation sauvage, non pensée, non maîtrisée. Donc, il faut maintenant aujourd'hui faire en sorte que l'on construise une ville, notamment vers l'est et le projet est très avancé pour que cette ville là-bas réponde aux normes urbanistiques. Et ici, on va d'abord gérer, dans un premier temps, les conséquences avant de traiter au fur et à mesure les causes. Il faut que les gens sachent que curer une rivière a un coût. Il y a des coûts aussi.
Est-ce que ça veut dire qu'à chaque forte pluie, on va revenir encore une fois dans ce studio de Radio Capi pour parler des dégâts de ces inondations?
Écoute, ça veut dire que j'ai vu, ça veut dire que ici, les dégâts sont de deux ordres. Bon, il y a des dégâts, comme on l'a dit, à cause de notre incurie. Il faut qu'on assume les mots comme tels qu'ils sont. Ça veut dire que l'État a laissé construire n'importe où, n'importe comment, sans système de drainage. Voilà. Les gens ont construit, notamment sur ce qu'on appelle les collines. Les gens ont construit sur des bancs de sable. Les gens ont construit sur des canalisations. Bref, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Alors, ici, dans un premier temps, c'est que même, par exemple, même si on avait un bon réseau d'assainissement, ça ne nous met pas à l'abri des inondations. Là, ça veut dire que nous allons faire en sorte que ce qu'on peut éviter en ayant un bon réseau d'assainissement soit mis en œuvre pour éviter justement les dégâts sur les vies humaines et sur nos infrastructures. Mais ce qui ne peut pas être évité, là, on ne peut rien faire, c'est la nature. Vous avez vu qu'en France, aux États-Unis notamment et ailleurs, où ils ont un bon réseau de drainage, mais il y a quand même des dégâts. Mais ici, nos dégâts à nous, pour la plupart, c'est parce qu'il y a cette urbanisation sauvage. Chaque fois qu'il faut lotir, regardez en Europe ou ailleurs, vous avez une sorte de plaque métallique circulaire, et vous voyez ça sur la chaussée. Ça montre qu'en bas, il y a un réseau des drainages qui récolte toutes les eaux de pluie pour les amener, les canaliser et les amener dans un exutoire. Ici, ça n'existe pas. Donc, toutes les communes qui sont surélevées, leurs eaux descendent dans les communes basses, et comme il n'y a pas de réseau de drainage, voilà, et ça finit sur la chaussée, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, moi, je dis, par rapport à cette question, même là où il y a les réseaux de drainage, on y jette des immondices. Donc, c'est comme ça que je dis, il faut une vision globale pour traiter chaque mot. Voilà à peu près ce que je pouvais dire.
Alors, on va vous redonner la parole, hein, parce que nous sommes avec vous jusqu'à la fin de cette émission, Israël Moutala. Joël Kianabassila, vous êtes urbaniste de formation, président national de la Corporation des urbanistes congolais, enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Vous êtes membre d'Expo Béton. Comment vous pouvez expliquer ces inondations dans la ville-province de Kinshasa? À chaque fois qu'il y a des fortes pluies, on déplore des dégâts matériels très importants. Il y a eu même mort d'homme, hein, cette fois-ci. C'est un enfant de 2 ans, je pense, qui est décédé, qui est emporté par les eaux.
Pardon.
Très rapidement.
D'abord, nous déplorons vraiment la mort de cet enfant de 2 ans. J'ai vu les images, ce sont des images insoutenables. Là aussi, par exemple, c'est vers Kalamu, c'est une zone inondable. Et là, on avait déjà indemnisé toutes les personnes qui sont sur cette zone-là. En précis, même dans les zones inondables, l'État ne doit pas indemniser. Une indemnité juste et préalable n'est donnée qu'aux gens qui ont des titres réguliers, qui ont construit dans des zones où on doit construire. Okay. Mais là, ce sont des gens qui ont construit dans des zones inondables, ne devait pas être inondable. Mais l'État, avec l'appui de la Banque mondiale, on a indemnisé à peu près 90 familles. Il y a quelques familles qui font encore de la résistance. Là, c'était des maisons qu'on avait évacuées, mais une famille est revenue dans cette zone inondable. Et c'est comme ça que cet enfant, malheureusement, a trouvé la mort.
Merci. Vous avez la parole, Monsieur Joël Kiana.
Merci beaucoup, Madame. Bonsoir à mes co-débatteurs. Madame, les récentes inondations qui ont frappé la ville de Kinshasa ont mis en évidence la fragilité de notre urbanisation. Déjà, il faut essayer de contextualiser cette gestion. Aujourd'hui, on est en 2024 et il y a plus de 64 ans, juste après le départ de Belges, les villes congolaises, dans la plupart des cas, furent des anciens comptoirs coloniaux. Ces anciens comptoirs coloniaux ont été transformés en agglomérations et dans la plupart des cas évoluent aujourd'hui dans une logique selon laquelle l'occupation précède la planification. Or, dans la norme, on exige la planification avant l'occupation. C'était le cas vers les années 70 avec la cité Salongo, avec la cité verte, avec Mama Mobutu, les anciennes cités planifiées Lemba, Bandalungwa. C'était des espaces que l'autorité, le pouvoir public a planifié avant l'occupation. Aujourd'hui, ce qui se passe à travers la ville de Kinshasa, au regard de ce qui se greffe autour de cette question de pluie, c'est le résultat de la mégestion de la ville de Kinshasa, où on ne pense plus la ville, on réfléchit plus la ville. Or, la ville, on doit la penser, on doit réfléchir comme c'était le cas. Les pluies, les inondations, ce sont des phénomènes normaux. Partout ailleurs à travers le monde, quand il pleut, il y a toujours des inondations. Et aujourd'hui, ce qui arrive à travers la ville de Kinshasa avec l'événement qui s'est passé samedi, c'est juste le résultat de cette urbanisation chaotique. Monsieur le directeur de cabinet vient de dire ici, il y a des zones qui ont été occupées anarchiquement. La loi, je vais lire la loi ici, le servitude sur le cours d'eau, rive et lac. La matière est gouvernée par plusieurs textes dont l'essentiel est repris ci-dessous. La loi foncière, en ses articles 169 et 180, 205, 206, le décret du 6 mai 52. Déjà en 1952, avant l'indépendance, le colonisateur, sinon le technicien, le législateur, avait interdit les gens d'occuper des distances bien déterminées le long de cours d'eau, le long des lacs, le long des chemins de fer, même le long de la voirie. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, ce qui se passe à travers la ville de Kinshasa, où vous avez 11 rivières, comme vient d'énumérer les directeurs de cabinet, toutes ces rivières-là sont inondées. Et aujourd'hui, nos rivières se sont transformées en dépotoirs publics. Et cela détermine la manière dont la ville elle est gérée. Aujourd'hui, ce que a hérité le gestionnaire actuel de la ville de Kinshasa, c'est un héritage lointain. En 5 ans, en 2 ans, en une année, la solution ne sera pas trouvée parce que le gestionnaire n'est pas un magicien. Il faut un bon diagnostic. Les villes congolaises, pour la plupart des cas, et la ville de Kinshasa en particulier, nous sommes dans une ville malade. Quand on est malade, on part à l'hôpital. Quand on est malade, il faut diagnostiquer le patient et en lui prescrivant des médicaments pour que le patient soit bien soigné. Et aujourd'hui, ce qui se passe à travers la ville de Kinshasa, c'est le résultat de la mégestion qui prend pratiquement 3 décennies. Et voilà un peu le tableau que présente la ville de Kinshasa en matière de gestion spatiale.
Donc, à ce jour, il est vraiment difficile de sauver Kinshasa.
C'est facile de sauver Kinshasa s'il y a un bon diagnostic. Et bien énumérer le problème, bien identifier le problème. On n'identifie pas les problèmes par des slogans. On n'identifie pas des problèmes par des urgences. Il faut identifier le vrai problème de la ville de Kinshasa. En 1960, la ville de Kinshasa avait 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous avoisinons 18 millions d'habitants. Les premiers lotissements, les derniers lotissements organisés datent de 1970. Des années, vers les années 70 jusqu'à ce jour, on n'a aucune cité planifiée, créée, pensée par le pouvoir public. Il n'y a que des urbanisations spontanées. Or, le Belge, quand il a organisé la ville de Kinshasa, la tendance d'urbanisation allait vers la partie est. Vous allez remarquer, on avait Njili, la cité de Mpassa, de Bibwa. C'était des zones affectées à des grandes opérations d'urbanisation. On a vu Daipen, on a vu Maluku. Comment est-ce que l'organisateur spatial, le pouvoir public de l'époque, a organisé ces quartiers-là? Aujourd'hui, vous allez vers Ntélé, vous allez vers Maluku, vous avez des grands espaces avec des lotissements anarchiques. Aujourd'hui, madame, au Congo, dans le contexte congolais, c'est l'autorité qui octroie le permis de construire, c'est l'autorité qui signe l'acte
d'occupation de l'espace. Donc si nous observons tous ces désordres qui s'organisent à travers la ville de Kinshasa dans sa partie est et la partie ouest, c'est l'autorité qui octroie le permis de construire, c'est l'autorité qui signe l'arrêté portant planification foncière, une planification qui est même désordonnée, sans même qu'il y ait un encadrement technique.
Alors, c'est l'autorité qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui.
La responsabilité, elle est partagée, mais la plus grande responsabilité revient à l'autorité, parce que c'est l'autorité qui autorise. C'est lui qui a occupé le berge de la rivière Kalam, de la rivière Njili, Funa, Yolo et consorts. C'est l'autorité qui lui a retroyé ses certificats d'enregistrement. Vous irez voir, rencontrer les occupants de tous ces lits, là, ils vous diront, voilà, je suis détenteur d'un certificat. Et le certificat, on l'obtient au ministère des Affaires foncières. Donc il y a une responsabilité et il y a aussi cette manque d'information à travers ceux-là qui viennent occuper, solliciter les achats. Aujourd'hui, la constitution, quoi ça, la loi foncière, la loi dite foncière, dit le sol et le sous-sol appartient à l'État. Donc le premier gestionnaire foncier, c'est le pouvoir public. Donc tout ce que nous observons à travers les villes congolaises, pour la ville de Kinshasa en particulier, le premier responsable, c'est le pouvoir public. Mais bien entendu, cette responsabilité est partagée. L'autorité doit encadrer, doit organiser la ville, l'espace.
Joël, plutôt Augustin, Tagui Sabo, un commentaire par rapport à l'analyse faite par notre expert, membre d'Expo Béton, Joël Kiana.
Oui, je peux dire, il peut avoir raison dans tout ce qu'il vient de dire. Les autorités ont une responsabilité à pouvoir bien gérer l'urbanisme. Parce que quand il y a l'eau d'écoulement, l'eau cherche là où il faut passer. Et quand il n'y a pas une bonne canalisation, cette eau-là cherche moyen de se créer le passage. C'est ce que mes collègues viennent de le dire. Donc, l'eau, avec l'intensité qui vient, quand il trouve une petite canalisation, il peut déborder. Et il faut que, même quand on construit des canalisations, il faut voir la quantité d'eau qui peut couler sur cette avenue ou bien sur la rue. Alors, si vous ne le faites pas, il va casser même cette canalisation que vous avez construite. C'est pourquoi nous voyons toujours, il y a des canaux qui sont de tout après le passage de l'eau, parce que la quantité d'eau d'écoulement est tellement intense par rapport à la dimension construite. Même quand on construit des routes, et il faut tenir compte aussi de la puissance de l'eau de pluie qui tombe. Parce qu'il y a des pluies de grêle aussi qui peuvent tomber, qui peuvent détruire aussi la route, qui peuvent détruire des maisons. Donc, les constructeurs qui sont, ils doivent voir et consulter à tout moment la Métersat pour que la Métersat leur donne l'intensité de la pluie sur les lieux où ils veulent construire. Par exemple, si la ville de Kinshasa, s'il faut construire une nouvelle cité, venez à la Métersat va vous donner les données nécessaires concernant les vents, concernant la quantité de précipitations, concernant même les orages, la fréquence d'orages qui peuvent tomber parce qu'il y a des maisons qui sont construites sur des collines où il y a fréquence d'orages et il y a toujours le foudroiement des matériels électriques de la maison qui sont abîmés. Alors la Métersat est là. Et nous demanderons seulement aux constructeurs de consulter la Métersat avant de prendre des initiatives de construction, que ce soit la route, que ce soit une nouvelle cité, que ce soit quoi que ce soit.
Là, vous vous adressez aux dirigeants.
Effectivement.
Alors, on va ouvrir notre standard pour écouter aussi l'avis de ces auditeurs, ces nombreux auditeurs qui nous suivent partout en RDC. On va prendre Junior Bompongo qui nous appelle de Kinshasa. On l'écoute et puis on revient dans ce studio pour la suite de notre émission.
Junior Bompongo, depuis la ville-province de Kinshasa. Cette pluie diluvienne qui s'est abattue le week-end dernier à Kinshasa n'est ni la première ni la dernière. Ce qui me permet de souligner si ceux qui ont la charge publique arrivent à comprendre que gouverner, c'est prévoir. À cet effet, pour prévenir de telles situations d'inondation à Kinshasa, il est essentiel de mettre en œuvre les mesures de gestion des eaux pluviales, telles que le débouchage régulé des caniveaux, la construction de systèmes de drainage efficaces et la sensibilisation des citoyens à l'importance de maintenir un environnement propre. Au niveau de l'hôtel de ville, une politique plus proactive et efficace devrait être adoptée pour réduire les dégâts de pluie. Cela inclut l'investissement dans l'infrastructure de drainage, la mise en place de plans d'urgence en cas d'intempéries, l'amélioration de gestion des déchets pour éviter les obstructions des canaux et l'implication des communautés locales dans la surveillance et l'entretien des systèmes de drainage. En perspective, je pense qu'il est impératif que l'hôtel de ville de Kinshasa travaille en étroite collaboration avec les résidents, les entreprises locales et les experts en urbanisme pour développer et mettre en œuvre des solutions durables visant à prévenir les inondations et à protéger la population.
Israël Moutala, brève réaction.
Encore une fois, je dis, c'est une question, là, c'est nous gérons les conséquences. Il faut nous attaquer aux causes. Et pour nous attaquer aux causes, il faut une planification. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Restaurer l'autorité de l'État, ça veut dire, ça ne veut pas seulement dire faire la guerre contre les envahisseurs. Restaurer l'autorité de l'État, c'est que quand une personne arrive avec un camion, il jette des tonnes et des tonnes de caillasse et de moellons pour commencer sa construction. Dans une zone non aédificaine, ça veut dire une pente collinaire, hein, ceci et tout ça, une zone inondable, le chef de quartier, le chef de le bourgmestre doit l'arrêter immédiatement. C'est ça l'autorité de l'État. Monsieur, selon le plan d'urbanisation de la ville, c'est une zone, ici on ne peut pas lotir. Nous manquons maintenant, même ici à Kinshasa, même des espaces verts. Parce qu'il y a eu des lotissements anarchiques. Mm-hmm. Quand je dis lotissement, c'est lotissement entre guillemets. Comme a dit l'expert ici, un lotissement, ça veut dire que vous faites même un réseau de drainage, un réseau d'adduction d'eau, voilà, l'électrification. On pense tout est prévu. On sait que telle cité va accueillir à peu près 100 000 âmes. Ça veut dire, vous divisez, si vous avez un calcul, c'est peut-être 100 000 âmes pour 5 personnes par famille. Donc, à peu près 20 000 ménages. Donc, vous comptez 20 000 maisons. On sait le nombre de quantités d'eau dont vous aurez besoin, d'énergie, l'eau qui vont s'écouler de toi. Et donc, tout ça est étudié. Mais encore une fois, la ville n'a pas de terre. La ville ne lotit pas. Donc, c'est au niveau du gouvernement central. La ville n'a même pas, à ce jour, de réserve foncière. Donc, pour avoir un lopin de terre, soit vous vous adressez à la ministre nationale des Affaires foncières ou au chef coutumier. Là aussi, c'est une aberration, parce qu'ils n'ont que le droit de jouissance et non le droit de disposition des terres. Mm-hmm. Mais regardez la façon dont les chefs coutumiers, dans les milieux périurbains de Kinshasa, comment est-ce qu'ils distribuent la terre? C'est un scandale, c'est une catastrophe. Il faut encadrer tout ça. Vous avez la question des normes, même pour les avis urbanistiques. Pour des immeubles de plus de 2 étages, c'est pas la ville, c'est le niveau central. Donc, voyez-vous, il y a tout ça, d'abord le niveau de la loi, il faut changer tout ça. Alors,
vous avez annoncé que vous avez commencé l'écurage des rivières, Israël Moutala. Ça va se faire régulièrement ou c'est parce que il y a eu des inondations dernièrement et même cette fois-ci, hein, que vous vous êtes dit on va commencer. Est-ce que ça va se faire régulièrement?
Non. On avait déjà commencé les curages. On les a fait notamment à Limété, on les a fait notamment à Kitambo, on les a fait notamment à Kalamu. On avait commencé bien avant. On avait les prévisions météorologiques. Mais encore une fois, nous essayons justement, on a identifié des points en tout cas extrêmement dangereux, extrêmement chauds.
Alors ma question est de savoir si ça sera régulièrement.
Oui, on a fait un plan annuel de curage, parce que le curage, ça doit être un plan annuel de curage. Un curage par trimestre en principe, et donc c'est ce qu'on est en train de planifier, et on est en discussion. On avait déjà commencé des discussions avec la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale a mobilisé une enveloppe de 200 millions de dollars. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Daniel Bumba, avait rencontré déjà, c'était il y a 2 mois, la responsable de la Banque mondiale chargée des catastrophes naturelles, Madame Catalina. et ils avaient déjà des discussions avancées pour voir comment est-ce que, avec les 200 millions, nous puissions mettre en œuvre un plan à jour d'assainissement de la ville de Kinshasa. Parce que le problème, c'est la gestion des eaux à Kinshasa. Quand le gouverneur de la ville de Kinshasa, quand le gouverneur de la ville de Kinshasa vous dit que je ne veux pas construire des routes en bitume, mais d'abord des routes en béton, parce qu'il sait que pour maîtriser les réseaux d'assainissement, les réseaux d'assainissement de la ville, ça va prendre du temps. Et que si on construit des routes en bitume, là on ne maîtrise pas les eaux, ça va se casser vite, on va perdre de l'argent. Mais le béton, les chaussées rigides, résistent mieux à l'eau. C'est pourquoi il a fait ce choix-là courageux de dire que désormais avec moi, c'est des routes en béton. Parce que le temps de faire des études, parce qu'il a demandé qu'on fasse des études sur un plan d'assainissement, dès qu'on termine les études pour avoir un plan d'assainissement des eaux des eaux ici à Kinshasa, l'état de le mettre en œuvre, ça va prendre énormément de temps de finaliser les études, de faire des appels d'offres, de les boucler et de faire la mise en œuvre. C'est comme ça qu'on commence d'abord par des routes en béton qui supportent mieux les eaux. Donc, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure que les gens ont construit sur les lits des rivières et sur les berges, mais d'autres ont quand même construit dans les lits des rivières. D'autres ont même dévié les cours de certaines rivières pour y construire. Et ce sont ces personnes-là qui viennent encore se plaindre auprès de l'État pour dire non, nous sommes inondés. Et voilà, c'est ça le problème. Donc, nous en appelons au civisme. Nous en appelons vraiment au civisme de Kinoises et de Kinoises. Sur la question de immondices, encore une fois, il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait pas de système de gestion intégré des déchets. Il n'y a pas de déchetterie finale. Il n'y a pas de décharge finale. Donc, vous collectez à la maison. Vous jetez ça où?
Et la décharge de Maloukou?
De Mpassa.
De Mpassa. Plutôt, elle n'existe plus.
Elle avait été spoliée. Et là, grâce à l'implication du président de la République, de la ministre des Affaires foncières et de la première ministre, on a récupéré le centre d'enfouissement de Mpassa, qui ne sera plus un centre d'enfouissement, mais qui sera un centre de revalorisation de déchets. Parce que si vous enfouissez à un moment, ça sera saturé. Il faut juste faire une économie circulaire en transformant les déchets en énergie ou en d'autres produits de première nécessité.
On va écouter cet autre auditeur qui nous appelle Dissangui dans la province de la Tchopo.
Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Tchopo. Les inondations à Kinshasa sont exacerbées par la construction anarchique qui obstrue les voies d'écoulement naturelles et empêche un aménagement urbain cohérent. Le manque de politiques d'urbanisation rigoureuse et d'entretien des infrastructures d'assainissement, notamment les caniveaux, est flagrant. L'hôtel de ville doit renforcer les contrôles et sur les constructions illégales, assainir les quartiers et instaurer des programmes de drainage pluvial adaptés. Les citoyens doivent aussi être sensibilisés à l'importance de maintenir les infrastructures propres. Une solution réside dans une meilleure planification urbaine et la réhabilitation des canalisations pour éviter que les pluies ne causent tant de dégâts.
Joël Kana, qu'est-ce que vous pensez de l'avis de cet auditeur?
Oui, l'auditeur a tout à fait raison. Je voulais souligner ici, madame, le développement d'une ville, le développement d'un espace, se repose sur un document. Un document de base, un document de planification qu'on appelle le plan d'urbanisme, le schéma, ça dépend des appellations de chaque ville, ça dépend du législateur, de la manière dont il a nommé ce document de planification. Je vais nous informer tous ici, la ville de Kinshasa dispose d'un document de planification qu'on appelle SOSAC. Le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération kinoise. Ce document a une force de la loi parce qu'il a été voté et promulgué. Il y a un édit du gouverneur de 2014. SOSAC, c'est le schéma d'orientation. Et le développement d'une ville se repose sur ces documents-là. Toute occupation, toute utilisation du tissu urbain doit se conformer autour de ces documents-là. Donc on ne sait rien faire, on ne saura rien faire. C'est comme la Bible, c'est comme la Constitution. Donc aujourd'hui, la ville de Kinshasa dispose de ces documents qui souffrent aujourd'hui d'applicabilité. On ne sait pas appliquer ces documents. Je vais renchérir le directeur de cabinet. Il a parlé des avis urbanistiques. L'avis urbanistique, pour un urbaniste que je suis, c'est comme un avis médical. Aujourd'hui, dans l'administration publique de l'urbanisme, vous allez remarquer les non-urbanistes donner des avis urbanistiques. Madame, vous pouvez aller à un hôpital, vous trouvez un économiste, un urbaniste travailler dans un hôpital, dans un centre de santé, vous donnez un avis urbanistique. Aujourd'hui, c'est ça aussi la question.
Donc tout est mélangé aujourd'hui.
Tout est mélangé. Le directeur de cabinet est là. Aujourd'hui, l'hôpital de ville n'a même pas un urbaniste en chef. Nos communes n'ont pas d'urbaniste en chef. Parce que le développement d'une ville se repose sur base de ces documents-là. Et ces documents sont élaborés par un spécialiste. Comme vous, journaliste, vous élaborez un plan des médias. Moi qui suis urbaniste, j'élabore un plan de la ville. Ce plan-là de la ville est élaboré en fonction de la vision de l'autorité. L'autorité Israël Moutala fait appel à un urbaniste, à un technicien. Il dit, voici la vision que j'ai pour ma ville. Pour 50 ans, pour 100 ans, pour un siècle. Et moi, j'élabore le plan de la ville en fonction de la vision de l'autorité. Je réponds, bien entendu, aux besoins et aux desiderata de l'autorité qui est Israël Moutala. Et après l'élaboration de ces documents, l'autorité doit promulguer ces documents-là. Le document devient opposable aux tierces, du président de la République jusqu'au chef du quartier. Vous voulez octroyer un permis de construire à celui qui sollicite. Moi qui suis au niveau de l'administration publique, avant d'octroyer ces permis de construire, je dois consulter ces documents-là. Que dit la loi ? Que dit les articles qui sont rattachés à ces documents d'urbanisme ? Eh bien, madame X, Y, je ne vous octroie pas le permis de construire parce que le plan d'urbanisme ne me permet pas de vous octroyer le permis de construire. Donc, pour l'information à l'opinion, la ville de Kinshasa dispose d'un document de planification qui est une force de la loi, il est opposable aux tierces. Nous recommandons aux autorités de mettre d'abord en application ce document de planification. Toutes ces questions liées à l'assainissement, à l'organisation, aux infrastructures, ce sont des composantes qui se trouvent dans un plan d'urbanisme. Parce que dans le plan d'urbanisme, il y a des grandes options. Il y a des questions de voirie, il y a des questions d'assainissement, il y a des questions de déchets, il y a des questions de normes de construction, de normes d'occupation, même des réserves foncières. Aujourd'hui, Soussac a résumé la ville de Kinshasa autour de trois pôles. Parce qu'il a compris que Kinshasa, avec l'héritage colonial qu'elle a connu, on n'avait qu'un seul centre et on a un mouvement pendulaire. Tout le monde quitte chez lui pour converger vers le centre-ville qui est la Gombe. Soussac a réfléchi avec l'expansion de la ville de Kinshasa. Il a résumé Kinshasa autour de trois grands pôles qui seront autonomes. Nous avons la ville centre, la ville est et la ville ouest. Mais bien entendu, pour poursuivre la démarche, il y avait eu un plan particulier d'aménagement de la zone nord. Et comme c'est un plan d'urbanisme qui demande la participation de tout le monde, il faudrait que chaque bourgmestre, chaque municipalité dote sa municipalité d'un plan particulier d'aménagement qui doit s'inscrire dans la vision globale de ce sac.
Et ça ne doit pas être centralisé au niveau de l'hôtel de ville.
Tout ne doit pas être centralisé au niveau de l'hôtel de ville. C'est ça aussi la charge qu'on incombe aujourd'hui au gouverneur. Donc on place le gouverneur au centre de tout. Or aujourd'hui, la gestion de la cité avec l'architecture de la ville, le bourgmestre a une responsabilité énorme. Le chef de quartier a une responsabilité énorme. Aujourd'hui, le directeur de cabinet Israël Moutala vient de souligner, la ville de Kinshasa n'a pas de terre. Or, avec la constitution que nous avons, la ville de Kinshasa a une autonomie de gestion. L'article 204 de la constitution recommande au gouverneur de la province de doter sa province d'un plan d'aménagement. Aujourd'hui, s'il y a des gouverneurs à travers les provinces qui ne dotent pas leurs entités de plans de développement, de plans d'aménagement, ils sont dans l'infraction. Je peux même déchoir ces gouverneurs-là, si je suis député provincial. Parce que c'est une disposition constitutionnelle. La ville de Kinshasa bénéficie de ce document de planification qu'il faudrait mettre en application. Ce qui n'est pas aussi facile, il faut la participation de tout le monde. La question d'organisation spatiale n'est pas seule la responsabilité du gouverneur. C'est la responsabilité de tous parce que nous partageons cet héritage
Le Congo, la ville de Kinshasa, nous appartient à tous et le bourgmestre doit travailler. Aujourd'hui, on laisse, rentrons un peu en arrière. L'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa avait instauré une opération Kinbopeto. Kinbopeto, une opération de gestion des déchets centrée au niveau de telle de ville. On a oublié le chef de riz. Parce que le premier producteur de déchets, c'est le ménage. C'est moi, c'est madame, c'est l'autre qui produit les déchets. On a oublié, on a centralisé la gestion de la ville autour du gouverneur. Or, la gestion doit être partagée, surtout que nos communes sont des entités territoriales décentralisées. Ils doivent s'associer dans la gestion quotidienne de la ville. Mais bien entendu, pour penser la ville, il y a un technicien, il y a un spécialiste de la ville. Le directeur de cabinet du gouverneur est ici. Cher directeur de cabinet, placé à travers nos municipalités des urbanistes en chef, pourquoi pas avoir un urbaniste à la tête de la ville de Kinshasa comme conseiller technique. Il n'est pas décideur, mais il accompagne l'action de l'autorité en matière d'urbanisme.
Merci, M. Joalken. On va prendre très rapidement ce dernier auditeur qui nous appelle de Bukavu dans la ville, dans la province du Sud Kivu.
Je suis Madeleine Jules, militant du mouvement citoyen Forum des nationalistes depuis la ville de Bukavu. La situation des inondations est générale en RDC et à Kinshasa en particulier. Les images que nous avons vues à travers les réseaux sociaux montrent combien de fois la ville est tellement mal gérée. D'autres villes sont dans la même situation que la ville de Kinshasa. Je pense que le gouvernement congolais doit créer une société nationale qui est comme la SINEL et la Régie des eaux, qui sera chargée de ramasser les déchets et les transformer. L'État doit également multiplier les campagnes de sensibilisation pour que la population soit capable de gérer les déchets. Depuis les débuts de ces pluies, bien entendu, la ville de Bukavu a déjà enregistré au moins 8 morts. Tous les canaux de la ville sont bouchés et cela occasionne ce débordement des eaux.
Alors c'est un problème pas seulement de Kinshasa, c'est toutes les provinces de la RDC qui se retrouvent dans la même situation, presque monsieur Augustin. Alors, quelle pourrait être selon vous, que devraient faire les autorités provinciales pour limiter l'ampleur des dégâts matériels ou humains lors des inondations? Très brièvement.
Bon, moi, je peux dire que, par exemple, la ville de Bukavu, qui est sur les collines, donc le gouverneur de la ville doit veiller à bien urbaniser sa ville, parce qu'il y a de l'eau qui coule de la montagne. Ça amène même des cailloux, des pierres. Donc, c'est mieux de prévenir à la population de ne pas construire au pied des montagnes. De ne pas construire au pied des montagnes parce qu'il y a l'écoulement qui peut apporter même des cailloux comme ça s'est fait à Uvira et même à Bukavu, dans les Calais, et ce sont des choses qui arrivent fréquemment.
Prendre donc, même des mesures.
Délocaliser
ces mesures. Des mesures même impopulaires pour ne pas continuer à se lamenter chaque fois qu'il y a des pluies.
Oui, c'est ça. Chercher un bon terrain où il faut construire. Parce que si on fait la tête, il y aura toujours des lamentations. Il y aura toujours des lamentations. Donc moi, je voulais aussi dire au directeur du cabinet, il y a la Banque mondiale qui vient de doter, c'est combien? 200 millions de dollars pour ces projets de risque de catastrophe. Je souhaiterais que la médecine soit prise en compte dans cette enveloppe-là. Parce qu'il y a des problèmes d'alerte précoce. Le problème d'alerte précoce est une urgence et qui nécessite vraiment un appui du gouvernement même dans ces projets, dans ces plans. Donc, que nous puissions être figurés là-dedans. Nous demandons au public de pouvoir suivre régulièrement les bulletins météorologiques pour prendre des précautions.
Merci, Monsieur Augustin. Merci Tagi Sabo. Je rappelle que vous êtes chef de division du Centre météorologique national et responsable de la prévision du temps à la Metelsat. Israël Moutala, quelle politique menée au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa pour réduire les dégâts des pluies?
Il y a des solutions, comme on l'a dit, solutions à court, moyen et long terme. Mais sur du long terme, tout a été dit, il faut...
À court terme ?
À court terme, il y a des solutions, ça veut dire d'abord dégager toutes les zones non édifiées où les gens ont érigé des constructions anarchiques. Là, il faut casser, il faut détruire. Mais là, il y aura un problème social. C'est ça le problème. Donc, les solutions ne sont pas faciles. Vous cassez, vous mettez 200 000 ménages dans la rue, vous les mettez où c'est des personnes humaines. Ça veut dire que les gens parfois habitent dans ces zones-là par désespoir. Je ne pense pas que ce sont des personnes sans cœur et tout ça. Ça veut dire que c'est notre population, elle est pauvre. Et nous, notre responsabilité, c'est de leur donner de la dignité, de l'espoir. Et donc, les solutions doivent être vraiment bien mûries et leur donner des alternatives. Mais là, tout de suite, il y a certaines constructions anarchiques qui menacent nos infrastructures, notamment nos infrastructures énergétiques. C'est ce qui est arrivé à la SNEL, à la FUNA et ici à la Gombe, où ça va faire 2-3 jours qu'il n'y a pas eu de courant parce que des gens ont construit dans des zones. Justement, même à la FUNA, quand on essaye d'évacuer les ménages qui ont construit dans les zones inondables et qui empêchent les eaux de s'écouler, c'est pour protéger la station d'énergie. Donc, parfois, nous serons amenés à casser parce qu'il y a des urgences qui font qu'on ne peut pas laisser nos infrastructures, notamment énergétiques, dépérir. Nos routes également. Construire une route, ça coûte extrêmement cher. Il faut que les Kinois protègent leurs routes. Ça veut dire que la ville n'appartient pas au gouverneur Daniel Bumba. Il n'en est que les gestionnaires pendant un temps. Il a un mandat de 5 ans qu'il a obtenu des Kinois. Et donc, ce n'est pas sa ville. Donc, quand vous jetez les immondices dans les caniveaux, vous jetez les immondices, vous détruisez votre propre maison. Donc, c'est ce sens de civisme. Nous en appelons à ce sens de civisme de tous les Kinois et Kinoises.
Il faut sensibiliser la population.
Justement, il faut sensibiliser la population. Et là, nous construisons des alternatives. Ça veut dire qu'un plan général, on a commencé, on a travaillé avec les bourgmestres, on va travailler avec les chefs de quartier tout à l'heure aussi, pour que les circuits, comme on a obtenu la décharge finale, il y avait un problème aussi d'accès, le pont s'est affaissé, un camion de plus de 10 tonnes, 20 tonnes ne peut pas accéder. Donc il y a des travaux d'aménagement du pont pour qu'on accède et on aménage le centre d'enfouissement. Mais en attendant, on construit les points de collecte dans chaque quartier pour prendre les ordures ménagères, les ordures de commerce et tout ça, les amener à la décharge finale. Et là encore, c'est une aberration. Pour une ville comme celle-ci, on ne peut pas avoir une seule décharge. On ne peut pas prendre les déchets des mamans Mobutu et aller les jeter en Djili. Donc, il faut minimiser les coûts et tout ça, c'est voilà toutes ces questions. Donc, c'est la gestion durable de nos déchets. C'est avoir une cartographie de notre réseau d'assainissement. Il faut des études et il faut absolument redimensionner notre réseau d'assainissement. Mais là où il y a un peu, il y a un réseau comme à Gombe, il y a un réseau d'assainissement qui est, il faut absolument le déboucher. Mais à Gombe aussi, la population a cru, les immeubles ont cru, il faut aussi le réadapter. C'est tout ça qu'il faut mettre combiné. Il faut draguer le fleuve, comme je vous l'ai dit. Il faut faire de filets pour piéger les matières plastiques, les bouteilles en plastique. Donc il y a plusieurs stratégies à mettre, mais à moyen terme, d'abord, c'est comme pour l'année prochaine, c'est le plan de curage annuel, chaque trimestre. Mais que les gens... Parce que si vous curez et que les gens jettent encore à nouveau leurs immondices dans les rivières, on ne s'en sort pas. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Forgeron.
Il faut conclure.
Je termine par là. Les gens nous ont demandé de casser le pont et de le surélever. Nous, on a dit d'accord. Si on casse le pont et qu'on le surélève, et que vous continuez à jeter les immondices, le lit va se rehausser et le pont, le nouveau pont qu'on va, on va surélever de 1 ou de 2 mètres, plus vous allez jeter le lit encore rehaussé et on aura le même problème. Donc la solution, ce n'est pas de casser les ponts et de les rehausser, c'est de faire en sorte que les gens ne puissent pas jeter leurs immondices dans. Et donc il faut de la sensibilisation et de la répression.
N'oubliez pas le message hein, de Joël Kiana, un message à transmettre au gouverneur par rapport à l'urbanisme en chef au niveau de l'hôtel de ville. Est-ce qu'il en existe hein?
Ça veut dire que l'hôtel de ville est conseillé par ce qu'on appelle la CDUK, la cellule de développement urbain de Kinshasa. C'est elle qui a la vocation de devenir une agence d'urbanisme comme à Paris. Et là, on a commencé les formations avec l'appui de la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui nous appuie pour former, pour transformer ça en agence d'urbanisme. Donc tout a été pensé à ce niveau-là et ça va bientôt arriver à maturité.
Joël, quelle est votre conclusion?
Madame, ma conclusion serait, je crois que l'urbanisme a un caractère contraignant. Un plan d'urbanisme, comme je venais d'évoquer tout à l'heure, un plan d'urbanisme contraint la population. On vous interdit et on ne vous octroie pas le permis de construire. Mais je crois que nous partageons tous cette responsabilité que l'histoire a placée entre nos mains. La question de la ville de Kinshasa, comme a dit le directeur de cabinet, ce n'est pas une question réservée exclusivement au gouverneur. Nous partageons cette responsabilité ensemble. Repensons la ville de Kinshasa. Je crois que la dimension de la sensibilisation, de la formation est aussi très très importante. On a détruit également aussi l'école. Aujourd'hui, les enfants jettent des immondices partout, par-ci, par-là. Et je crois que cette campagne de sensibilisation qui sera mise en place par le gouverneur autour de cette gestion de la ville de Kinshasa, on doit penser également l'école. En pensant à l'école, il faut voir l'élève, l'étudiant, et plus loin, j'insiste encore, pour des questions d'organisation spatiale. Votre autorité.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de poubelles dans la ville de Kinshasa. Vous êtes d'accord avec moi, Israël Moutala? Joël, vous êtes d'accord
Madame,
avec moi?
Madame, la question des poubelles, on nous a placé des poubelles le long du boulevard du 30 juin. On a vu comment est-ce que des poubelles ont été remplies par des immondices.
Parce qu'on ne les vidait pas.
On ne les vidait pas. Donc, c'est-à-dire, il y a un problème d'éducation. On peut doter la ville de Kinshasa de beaux plans, des organes techniques pour gérer la ville de Kinshasa, si le Kinois, le Congolais lui-même, n'est pas éduqué sur le plan mental, eh bien nous allons revenir dans la case de départ. C'est pourquoi j'ai dit, nous partageons tous cette responsabilité que l'histoire a placée entre nos mains.
Merci Joël Kianavassila, merci chers invités d'avoir répondu à notre invitation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la présentation et la préparation de ce magazine. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.